France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Louan Deniel, Fanny Richet, Inès Bouffartig, Sébastia et Loïc Antoine. Réalisée par Margot Page et à la technique ce matin, c'est Mineta Diawara. Du harcèlement de rue au féminicide, les femmes restent surexposées à la violence, quelle que soit leur nationalité, leur âge, leur niveau social. Elles demandent aux États d'en faire une priorité de politique publique. Après le Mexique hier, où la présidente Claudia Sheinbaum est en première ligne, nous parlons ce matin d'un autre État fédéral où le sujet commence à être fédérateur.
En Allemagne, il faudrait 30 000 places en foyer de plus. Quand une femme qui a subi des violences se voit refuser l'accueil dans un centre d'hébergement, faute de place, eh bien, elle retourne chez elle et retombe dans le cercle vicieux des violences domestiques, de plus en plus dangereuses, qui parfois même vont jusqu'à l'homicide.
Nous avons recueilli plus de 100 000 signatures, mais 87% de la population allemande est favorable à une loi qui protège les femmes.
Avec la loi contre les violences sexistes, sexuelles et domestiques, le soutien psychologique des victimes devient enfin un droit garanti par l'État pour chaque femme. Le gouvernement fédéral investit 2,6 milliards d'euros dans la sécurité des femmes. Car la violence à l'égard des femmes n'est jamais une affaire privée. La combattre est une responsabilité fondamentale de l'État.
La violence à l'égard des femmes peut avoir une odeur qui s'imprime dans leur mémoire et de celle des témoins. Un personnage d'un roman de Franz Bartelt raconte que sa mère se frictionnait d'eau de Cologne après que son père l'eût frappé. « C'est une des odeurs de mes chagrins d'enfant », écrit-il, « et c'est pour moi une des odeurs du silence. Je revois ma mère se frictionner le corps, le plein des bras, là où les coups de poing laissaient des traces en forme de continents, de pays, de nuages. » En Allemagne, la violence à l'égard des femmes évoque d'abord Cologne, pas le parfum, mais la ville où le soir du réveillon, le 31 décembre 2015, des centaines de femmes se sont retrouvées encerclées, chahutées, touchées et dans de rares cas violées par des hommes qui étaient pour la plupart en Allemagne depuis moins d'un an, la moitié en tout cas de ceux qui ont été identifiés. Beaucoup ne seront jamais confondus parce qu'il faisait nuit et parce qu'il faisait froid, parce que les capuches et les bonnets. Voilà comment pendant quelques années les violences sexuelles ont été mêlées dans le débat public à ce qu'on appelle la question migratoire, même si les chiffres rappellent que dans deux tiers des cas, les violences se font dans le cadre familial, ce qui rappelle l'eau de Cologne. Le 14 février dernier, l'Allemagne adoptait sa première loi fédérale pour lutter contre les violences sexistes et domestiques. Saluée comme historique par la ministre Lisa Paus, le texte doit renforcer la protection juridique et les structures d'accueil pour les victimes. Les Länder ont jusqu'à 2032 pour mettre en œuvre ces nouvelles dispositions au niveau local. Nous en parlons ce matin avec nos invités. Elisa Gudin-Steinmann, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes professeure en études germaniques à l'université Sorbonne-Nouvelle, rédactrice du blog Regard sur la RDA et l'Allemagne de l'Est. Nous sommes en duplex depuis ici Armorique à Rennes avec Valérie Dubslaff. Bonjour.
Bonjour.
Merci également. Vous êtes enseignante chercheuse en histoire et civilisation du monde germanique à l'université Rennes 2. Alors on commence avec ce qui est une actualité encore en Allemagne, même si ce texte date maintenant du mois de février. Quelle lacune cette loi fédérale votée en février, Valérie Dubslaff, était-elle censée comblée en Allemagne, qui se targue par ailleurs d'être pionnière des thérapies contre les auteurs de violences, de la construction de foyers d'accueil. Quels échecs ou manques cette loi était-elle censée corriger ?
Alors cette loi est directement liée à la Convention d'Istanbul qui avait été décidée, adoptée en 2014. C'était une initiative lancée par le Conseil de l'Europe et donc les pays signataires étaient censés développer un dispositif de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Et l'Allemagne a ratifié ce texte en 2017. Et elle a été évaluée en 2021-2022 par une commission d'experts indépendants qui a découvert qu'il y avait quand même de gros déficits dans la mise en œuvre de ces politiques en faveur des femmes. Et donc, ils ont pointé différents points. D'abord, qu'il n'y avait pas de stratégie nationale en Allemagne contre la violence faite aux femmes, qu'il n'y avait pas assez de dispositifs, pas assez de structures d'accueil, d'aide, d'accompagnement de femmes, surtout victimes de violences conjugales, de violences familiales. Et donc, cette commission d'experts à sommer l'État d'agir. Et donc, c'est pour ça que cette loi a été adoptée en janvier-février 2025. Et donc, voilà, l'idée, c'est, comme vous l'avez dit, c'est de développer l'offre, de développer les structures d'accueil des femmes en détresse et de leur donner le droit, dès 2032, un droit à la protection. Et donc, les femmes victimes de violences peuvent mener des actions en justice contre l'État si l'État ne répond pas à ce droit à la protection. C'est ça la grande innovation de cette loi.
La mise en place d'un droit opposable à l'accès à une place d'accueil, puisque même si l'Allemagne est pionnière dans la construction de foyers d'urgence, la ministre allemande Lisa Paus a identifié ce gros problème aujourd'hui de manque de place.
Cette loi soutiendrait les États et les municipalités au niveau fédéral dans le développement des services de soutien et surtout des centres d'hébergement pour femmes. Nous avons des maisons d'accueil, des centres de conseil, mais c'est insuffisant. Il y a d'énormes différences dans le financement et je voudrais que chaque femme, chaque fille puisse obtenir une protection et ne soit pas rejetée des maisons d'accueil pour femmes parce qu'il n'y a pas assez de place.
La ministre Lisa Paus sur la chaîne Welt, Elisa Goudin-Steinmann, cette loi qui met en place donc un droit opposable à l'accès à une place d'accueil, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'elles peuvent porter plainte contre qui? Contre l'État? Contre le land où elles vivent?
Oui, c'est ça. Elles ont un droit gratuit à cette protection, ces protections et conseils. On peut demander aussi simplement du conseil sans un besoin de protection immédiate, un conseil sur la santé ou sur des violences passées. C'est pas forcément dans l'urgence, mais c'est en effet un droit gratuit, quel que soit l'endroit où on habite. Et c'est pour ça que ça va, c'est pas avant 2032, c'est qu'il faut laisser aux lenders la possibilité de construire ces places d'hébergement, de former des gens, etc. Ça se fait pas immédiatement. Il y a quelques petites lacunes dans cette loi. D'abord, c'est des lacunes qui sont dues au fait qu'il a fallu recueillir finalement les voix aussi des conservateurs, alors que le projet était au départ un projet de la coalition de Scholz. Et il y a des choses qui ont été supprimées pour que la CDU accepte de voter. Par exemple, il s'agit uniquement des violences corporelles, sexuelles et psychologiques et non plus des violences économiques. On a enlevé le mot économique, or c'était, je crois, quelque chose d'important.
Avec l'idée que défendent beaucoup, que l'autonomie financière peut aider à réduire la violence. Ça ne figure plus dans le texte, mais certains portaient cette idée-là.
C'est ça, il y a des violences économiques que subissent les femmes, parfois quand leur salaire est versé sur un compte commun ou quand elles n'ont pas de ressources. Enfin voilà, et bon, alors on peut dire qu'elles entraînent des violences psychologiques et ça peut, comme ça les femmes pourraient être protégées quand même, mais ça c'est une première chose. Et puis la deuxième difficulté, c'est le terme de femme et non pas de violence genrée en général, parce que donc on protège les femmes et leurs enfants, mais si un enfant est exposé à la violence dans son foyer, mais que c'est son frère qui est battu par exemple, ou son père, a priori cet enfant n'est pas protégé par cette loi, puisque c'est uniquement les femmes. Ça c'est aussi ce que les conservateurs ont demandé, et ça pose aussi des problèmes par exemple pour les femmes trans qui normalement sont protégées parce que si elles ont fait la démarche à l'état civil d'être des femmes, mais si les violences datent de la période où elles étaient des hommes, du point de vue de l'état civil, elles pourraient ne pas être protégées. Donc il y a comme ça quelques petites failles encore dans la... même si en effet c'est un avancement, hein, mais la loi n'est pas parfaite.
Valérie Dubsla, vous avez noté d'autres réserves ou craintes qu'il a fallu lever auprès de certains partenaires de la coalition, puisque cette loi, encore une fois, découle d'un vote transpartisan entre les Verts, les sociaux-démocrates et la CDU.
Je pense qu'on peut déjà valoriser le fait que c'est une victoire quelque part, parce que les différents partis ont réussi à se mettre d'accord sur un texte qui est crucial. Donc on peut voir quand même le côté positif de la chose. Après, c'est vrai que c'était dans un contexte assez particulier. Cette loi, elle a été adoptée en janvier. C'était en plein contexte électoral. Et c'est vrai que la focale à l'époque était vraiment sur la question migratoire. Et donc on en a assez peu débattu, en fait, de ces textes-là. Je sais que la CDU, par exemple, dans les conservateurs, rapporteur avait proposé un autre texte qui essayait de faire glisser un peu la question du côté des violences sexistes et sexuelles dans l'espace public en général, et en gommant un tout petit peu le, enfin en tout cas en élargissant le groupe de victimes. Donc il était plus question forcément de femmes, mais de personnes vulnérables. Et donc ça comprenait aussi les seniors, ça comprenait les enfants, les personnes en situation de handicap, etc. Donc il y avait un texte de la CDU, il y avait un texte de l'AFD aussi, de l'extrême droite, qui elle pour le coup gommait complètement la question genrée, ou en tout cas en la détournant et en mettant en valeur plutôt la violence à l'égard des enfants dans les structures gérées par l'Église. Donc il y a eu tout un débat comme ça où différents partis ont essayé de tirer la loi dans d'autres directions, mais le texte qui est sorti en définitive est plutôt une victoire pour les femmes.
Une loi qui a par ailleurs été votée, vous le rappeliez, donc en février, dans un contexte politique particulier, puisqu'à 10 jours des élections fédérales qui avaient lieu le 23, est-ce qu'il y a eu porosité entre la campagne pour les élections, et notamment on sait combien aujourd'hui la question de l'immigration prend beaucoup de place dans les campagnes électorales en Europe, et les débats autour de cette loi contre les violences faites aux femmes? Valérie Dubslaff, est-ce que l'AFD, dont vous rappeliez qu'elle a essayé de tourner le sujet du débat en évoquant les violences faites aux enfants, mais par ailleurs, est-ce que sur les violences faites aux femmes, toujours revenait sur la table cette nuit qui a existé, cette nuit où vraiment plus de 1200 femmes ont été agressées sexuellement à Cologne, mais aussi à Hambourg, par beaucoup de personnes qui étaient soit sans papier, soit qui vivaient en Allemagne depuis peu?
Oui, exactement. Alors, l'extrême droite se saisit de cette question des violences faites aux femmes quand ça l'arrange, quand il y a une conjoncture aussi, quand il y a une actualité. Et c'est sûr que en 2016, 17, 18, 19, il y avait vraiment un moment où l'extrême droite a massivement investi ce sujet des violences sexuelles et sexistes, et en toujours conjuguant la question de la violence faite aux femmes avec un discours raciste. Donc c'était toujours pour dire que la violence, elle venait des autres, elle venait des réfugiés, elle venait des personnes issues de l'immigration, mais elle venait pas de l'homme blanc. Et donc ça, c'est un discours qui était très porteur après les faits de Cologne que vous avez rappelé. En 2025, ce n'était pas une priorité de l'AFD. L'AFD s'est concentrée sur la question migratoire et voulait surtout endiguer l'immigration. Il n'a quasiment pas été question de la violence faite aux femmes.
Toute la lumière n'a pas été faite d'ailleurs sur ce qui s'est passé cette nuit-là. La police n'a d'ailleurs pas conclu que toutes les agressions étaient planifiées. Elle n'a pas trouvé d'éléments qui confirmeraient ces accusations. Les victimes ont eu du mal à reconnaître leurs agresseurs. On sait qu'à Düsseldorf, un homme marocain a été condamné à 1 an et 7 mois de prison ferme, qu'un homme irakien accusé par 2 femmes d'avoir fait partie du groupe d'hommes qui les avaient agressés a été confondu parce qu'il avait lui-même pris des photos avec son portable. Mais il y a plein de choses également qu'on ne sait pas, Elisa Gudenstein-Mann. Et néanmoins, en effet, cette affaire-là, cette nuit-là, elle a continué à infuser, à être présente dans les débats autour de la façon dont il fallait légiférer les violences faites aux femmes, enfin la protection des femmes.
En tout cas, dans l'imaginaire collectif, ça infuse dans les réflexions juridiques sur la façon de s'y prendre dans la lutte contre les femmes. Non, parce qu'on sait que justement, c'est complètement c'est de l'ordre de la représentation. La plupart des agressions sexuelles ont lieu à l'intérieur du foyer des femmes, concernent toutes les catégories sociales.
65%.
Enfin, oui, les 2/3. Et encore, il y en a sûrement une partie qui passe sous les radars des statistiques. Les réflexions sur comment est-ce qu'il faut faire pour diminuer les violences faites aux femmes, elles prennent pas en compte les histoires migratoires. Ça c'est de l'ordre des questions électorales plutôt.
Les études sur le sujet montrent en effet que la majorité des violences sexuelles et sexistes subies par les femmes le sont dans un cadre familial, donc 2/3, même si 70% des femmes qui ont cherché de l'aide dans l'un des refuges pour femmes en 2023 n'étaient pas nées en Allemagne, ce qui rend les chiffres de toute façon encore moins interprétables et qui permet à chaque parti d'y voir ce qu'il veut y voir.
Oui, ben oui. Ça, de toute façon, oui. Ça, c'est pas vrai que pour les violences contre les femmes, hein, ça c'est sûr. Je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais à propos de ces réflexions sur comment s'y prendre, il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on fait des auteurs de violences, qu'ils soient ou non allemands. L'Allemagne a beaucoup réfléchi sur ce Täterarbeit, ce travail avec les auteurs de crimes sexuels ou de violences sexuelles. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Qu'est-ce qu'il faut développer? Et il y a un maillage très serré maintenant d'institutions qui accueillent les auteurs de violences sexuelles pour faire un travail thérapeutique avec eux, qui prend des formes très, très, très diverses. mais qui cherchent justement à leur apprendre à reconnaître quand la violence monte, trouver des stratégies alternatives, développer des compétences émotionnelles, de l'empathie. Ça peut être aussi, ça consiste aussi à les aider à se responsabiliser, à ne pas minimiser ce qu'ils ont fait. Et tout ça, c'est très, 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 très important, évidemment.
Est-ce qu'il y a des études sur l'efficacité de cette prise en charge aujourd'hui?
Alors, c'est pas très facile de répondre à cette question parce que pour mesurer l'efficacité, donc est-ce que ça fait baisser le taux de récidive, il faudrait un groupe témoin d'hommes un peu similaires mais qui ne ferait pas le travail thérapeutique. Or, on a déjà un biais au départ, c'est que les hommes qui acceptent le travail thérapeutique, de faire ce travail, probablement ont peut-être déjà une chance moins importante de récidiver. Et puis, on ne va pas interdire à un homme de faire le travail juste pour être dans le groupe témoin. Donc, on n'a pas vraiment de... Mais on sait qu'en tout cas, même s'il y en a des récidives, parmi les hommes qui ont fait ce travail, il y en a quand même relativement peu. Après, ça dépend. Encore une fois, c'est très diversifié. Il y a des choses qui sont uniquement des ateliers, des jeux de rôle. Il y a des consultations d'addictologie, des techniques de relaxation, enfin tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour essayer de faire en sorte que l'auteur de crimes sexuels sache repérer quand la violence va être là et sache l'éviter, trouve des alternatives.
Alors, est-ce que Valérie Dubslav, la question s'est posée en Allemagne de savoir s'il fallait rendre obligatoire ces thérapies, comme en Autriche par exemple, où toutes les peines prononcées contre des hommes qui ont commis une violence contre leur épouse ou contre une femme incluent systématiquement une ordonnance de soins de la part des juges. En Allemagne, ça n'est pas le cas. Est-ce que la question s'est posée au moment du vote de cette loi, Valérie Dubslav, et est-ce que l'enveloppe, on n'en a pas encore parlé, mais 2,6 milliards d'euros sur 10 ans quand même débloqués par cette loi. Est-ce que cette enveloppe inclut une extension encore de ces thérapies ?
Alors oui, parce que justement mercredi dernier, le gouvernement fédéral a décidé de nouvelles mesures. Ça a été annoncé récemment par la ministre de la Justice qui disait que justement on allait maintenant plus systématiquement contraindre les agresseurs à donc suivre ce type de thérapie. Mais déjà maintenant, donc souvent les hommes, ce sont quand même en majorité des hommes, peuvent donc sur la base du volontariat se rendre dans ces centres d'accompagnement, etc., pour suivre des thérapies de groupe, etc. Mais des tribunaux familiaux aussi peuvent déjà obliger les hommes à y participer. Et donc c'est sûr que s'ils sont obligés, ils sont souvent moins réceptifs que si déjà ils sont volontaires, parce qu'ils veulent changer de comportement. Mais oui, effectivement, l'enveloppe qui a été allouée donc de 2,6 milliards jusqu'en 2036, et on se demande aussi qu'est-ce qui va se passer après 2036, parce qu'on ne sait pas si ce sera pérennisé, et c'est un gros enjeu aussi pour les régions notamment, devra effectivement aussi... couvrir le financement de ce type de thérapie.
J'ai subi tellement d'intimidation et de mauvais traitements de la part de mon mari. J'étais au fond d'un trou, un trou très profond, et ils m'ont aidé à en sortir. Le personnel de cette structure m'a accompagné du début à la fin jusqu'à ce que j'obtienne le divorce et la garde de mes enfants. Si je n'avais pas été accueillie dans ce foyer pour femmes, je ne sais pas où j'en serais avec mes enfants aujourd'hui.
Une femme qui préfère rester anonyme, qui a été rencontrée par une équipe d'Arte cette année dans un refuge, dans un centre d'accueil spécialisé. Valérie Dubslav, comment expliquer que l'Allemagne manque de place aujourd'hui en hébergement pour les femmes les plus exposées aux violences, alors qu'elle a été parmi les premiers pays d'Europe à réfléchir à la prise en charge d'urgence des femmes battues par leurs conjoints et mis en place très tôt des refuges et des foyers ?
C'est un problème de financement, parce que l'Allemagne, comme d'autres pays d'Europe, ont des problèmes budgétaires en ce moment, et donc c'est vraiment un problème de financement, et ce n'était pas forcément considéré comme priorité politique non plus. Et ça dépend des régions. Et c'est vrai qu'au départ, dans les années 70, donc la première maison pour femmes, ou maison d'accueil des femmes en détresse, a été créée en 1976 à Berlin-Ouest, dans le contexte du mouvement des femmes, donc du féminisme politique, qui vraiment a mis, dès le départ, la question de la violence au centre de son combat parce que les féministes luttaient contre le patriarcat et que le patriarcat était considéré comme par définition violent parce qu'il maintenait les femmes dans une position de dominer, dans une position vulnérable, et que dès le départ on savait que la violence était exercée dans la sphère privée et qu'elle était invisible, qu'elle était occultée, qu'elle était taboue, et d'où la revendication principale des féministes de le privé et politique, c'est-à-dire c'était de revendiquer que les femmes avaient besoin de protection dans leur foyer, qu'elles avaient besoin de droits dans leur foyer, dans leur sphère privée. Et c'est vrai que cette maison pour femmes des années 70 était des initiatives féministes, et donc ça s'est peu à peu institutionnalisé à partir des années 90, où les autorités, les municipalités, les lenders ont commencé à financer un tout petit peu ces structures-là, à financer les associations, à financer un personnel médical, psychologique, gynécologique, etc., dans ces institutions, mais c'est très tardif. Et on peut peut-être rappeler aussi que, par exemple, la reconnaissance du viol dans le mariage n'a été interdite qu'en 1997 en Allemagne. Donc, c'est très tardif.
Il y avait aussi beaucoup de circonstances, entre guillemets, atténuantes qui empêchaient les tribunaux de considérer une agression comme un viol. Et on en parlera de cette définition-là. Sur les accueils pour femmes qui comptent aujourd'hui à peu près 6000 places, mais on sait qu'il en faudrait le double, voire le triple, selon l'aveu même du gouvernement, Elisin Gouda-Steilman. Est-ce qu'il y en avait aussi en Europe de l'Est d'emblée? Est-ce qu'on peut, entre guillemets, cartographier les violences faites aux femmes en Allemagne ou la façon dont elles sont recensées, ou ça n'aurait pas de sens?
Avant la chute du mur.
Mais même aujourd'hui, oui, les conséquences encore aujourd'hui, avant et après.
Oui, alors avant la chute du mur, il y avait des associations, enfin, il y avait déjà des activistes féministes qui essayaient d'aider les femmes, mais la violence était aussi très taboue, la violence notamment à l'intérieur du mariage. C'était très très tabou, c'est quelque chose qui était presque réputé ne pas exister, comme l'alcoolisme, etc. Donc c'était plutôt des gens qui s'organisaient pour faire des à l'intérieur, par exemple, de consultations médicales ou dans des hôpitaux, des consultations pour informer les femmes sur leurs droits, etc., sur leur santé. Mais c'est pas quelque chose que l'État prenait en charge en tant que tel. C'est un peu comme l'alcoolisme, comme tout ça, on se disait que ça n'existait pas. Et après la chute du mur, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont quitté massivement les lenders de l'Est pour chercher du travail à l'Ouest, plus que d'hommes.
J'ai cru que vous alliez dire qu'elles avaient massivement quitté leur mari. Mais non.
Bah, de fait aussi. Mais du coup, c'est on s'est retrouvé avec une surpopulation masculine dans plein de petites villes, notamment, ou villages, et avec ce phénomène de misère sexuelle.
Et ce qu'on appelle aujourd'hui les célibataires involontaires, les incels.
Exactement. Et ça, c'est vraiment caractéristique de, même si la tendance est un tout petit peu inversée, enfin voilà, des gens sont revenus vers l'Est, mais ça, c'est vraiment très caractéristique des années post-unification, parce que les femmes, étant davantage confrontées au chômage, sont parties aussi davantage chercher un emploi.
En Allemagne, on parle de hausse de la violence contre les femmes en général. Comment lire les chiffres qui datent, les dernières données datent de 2023. On parle de 180 715 femmes victimes de violences domestiques, en hausse de 5,5% par rapport à l'année précédente, entre autres. L'une et l'autre, comment vous appréhendez ces chiffres-là, Elisa Gouda-Steilman? Est-ce que, avec quelle pincette vous les prenez?
Ben oui, c'est des chiffres qui sont tristes. Peut-être que, enfin, si on est optimiste, on se dit qu'il y a davantage de femmes qui rapportent des faits de violence sexuelle, sexiste qu'avant, et que donc ça n'a pas réellement augmenté. C'est juste que c'est plus visible, ça passe moins sous les radars. Mais ça, c'est vraiment la vision optimiste. C'est possible aussi qu'on ait malheureusement une hausse. Comme disait Valérie, il y a un problème de financement chronique. Les lenders vont avoir de l'argent là, et chacun va décider comment il va allouer ces sommes-là. Est-ce que c'est pour construire davantage de foyers d'urgence? Est-ce que c'est pour faire ouvrir davantage de structures d'accueil pour du conseil? Enfin voilà, chaque land va décider ce qu'il fait de cet argent-là. Mais voilà, en tout cas, il y a c'est pas normal que les chiffres de violence augmentent encore. C'est lié aussi, je pense, à la précarité économique. Enfin, on revient à ces questions économiques qui sont vraiment décisives.
Encore faut-il, quand on dit que peut-être il y a plus de plaintes qu'avant, mais encore faut-il que les femmes soient prises au sérieux dans les commissariats et leurs plaintes dûment enregistrées puis suivies, ce qui n'est pas toujours le cas, comme en témoigne Svenja Beck, cette femme qui témoignait à France 24 il y a quelques mois.
La policière qui m'a reçue a fait une erreur. Elle a déposé plainte contre lui pour coups et blessures graves, alors qu'elle aurait pu déclencher une enquête pour tentative d'homicide, ce qui ne lui aurait pas permis de s'en sortir avec une peine de sursis. Il serait allé en prison. Et c'est là que ça commence. L'agresseur se sent confirmé dans ses actes, il se sent fort, parce qu'il se rend compte qu'il ne lui arrive rien de grave. Alors rien ne l'empêche d'aller un jour plus loin, d'aller jusqu'au féminicide.
Probiert haben und das hindert sie dann irgendwann auch nicht mehr dahingehend dieses Ding auch mal auszuführen, ja, diesen Femizid.
Alors cette femme a témoigné, déposé plainte et témoigné contre son mari. Elle est victime de violences conjugales dont vous disiez, rappeliez l'une et l'autre, que pendant longtemps la loi en Allemagne n'en a pas fait cas de ce crime-là. Aujourd'hui, comment le viol est-il défini dans la loi allemande? Est-ce que le code pénal a évolué en la matière récemment, Valérie Dubslaff?
Alors oui, le code pénal a évolué en 2016 avec une loi qui en allemand s'intitule « Non, c'est non » et qui introduit l'idée de consentement, c'est-à-dire que dès qu'une des deux personnes n'est pas consentante, il y a viol. Et
avant, ce n'était pas le cas ?
Avant, ce n'était pas le cas. Avant, il fallait des témoins, il fallait prouver qu'on avait été violé, donc autant dire que c'était plutôt compliqué. Et donc ça change qu'en 2016, donc c'est assez récent. On peut peut-être dire, si je peux me permettre, sur les féminicides, c'est que les féminicides en 2024 ont diminué par rapport à 2023. Il y a eu 308 féminicides en 2024, donc ce qui est quand même presque un féminicide par jour, donc c'est absolument énorme. Et une victime sur deux ne s'est pas signalée aux autorités, à la police ou autre. Et
donc ça montre une victime de, pardon, parce
que une victime de féminicide, pardon. C'est-à-dire que
elles peuvent pas tellement.
Non, non, je pense que vous vouliez dire. C'était signalé avant pour des.
Ah oui, pardon.
Pour des faits
excusez-moi.
De violence,
pardon.
Donc,
oui.
Dans son couple ou dans la famille. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une zone grise qui est assez importante. Et on peut peut-être ajouter que les femmes ont souvent peur de porter plainte et elles ont honte aussi de porter plainte. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte.
Elisa Gunnar-Steinmann.
Ça, c'est vraiment un enjeu important, je crois, et c'est peut-être une partie de cet argent aussi, de cette loi, va servir à ça, à aussi mettre en place des mesures pour justement éviter cette zone et faire prendre conscience aux femmes avant que la violence physique n'arrive de d'autres formes de violence. Parce que la violence, c'est pas uniquement les coups, la violence, c'est aussi déjà quelqu'un qui essaie de contrôler vos fréquentations, des humiliations, enfin, apprendre à reconnaître des choses avant que pour que les femmes puissent davantage se mettre à l'abri, davantage en parler, davantage témoigner. Ça, c'est un enjeu crucial parce qu'en effet, certaines ne vont pas aller porter plainte tant qu'on n'a pas fait ce travail de reconnaissance de qu'est-ce que c'est, à partir d'où commence la violence et comment est-ce qu'on peut la voir venir avant que les coups qu'un féminicide n'arrive. En général, il y a des signes avant-coureurs. Donc ça, c'est vraiment tout un travail aussi de former des gens spécialisés, d'ouvrir des consultations gratuites, avec y compris différents corps de métier pour apprendre à connaître ses droits et à reconnaître des formes de violence qui sont pas de la violence physique.
Et certaines aujourd'hui organisations féministes ou de juristes demandent à ce que soit prise en compte dans la loi la séparation d'un couple comme une circonstance aggravante de la violence d'un conjoint, comme le dit cette porte-parole d'une association allemande de femmes juristes, Dilken Celebi.
Dans ce genre de situation, le délit peut être déclenché et déterminé par un sentiment de détresse et de désespoir intérieur. En allemand non juridique, cela signifie que si les faits ont été causés par la séparation et que c'est la victime qui a souhaité cette séparation, eh bien cela peut ne pas être considéré comme un fait aggravant. Nous réclamons que le caractère dit sexo-spécifique soit considéré comme une circonstance aggravante. Cela permettrait de sensibiliser la police et la justice aux violences de genre. Les enquêteurs pourraient ainsi suivre cette piste et les juges pourraient le prendre en compte dans l'application des peines.
Alors cet entretien mené par France 24 date déjà d'avant la loi de 2022. Est-ce qu'on sait, Valérie Dubslaff, si cette demande-là en particulier a été prise en compte dans la loi, mais aussi ce qu'évoque cette dame ainsi qu'Elisa Goudin, c'est-à-dire la formation de personnel de professions spécialisées, des policiers, des magistrats aussi. Qu'est-ce qu'on peut en dire à ce jour ?
Alors, il me semble que ça n'a pas été répercuté dans la loi. Je sais que ce qui a été, mais il y aura d'autres annonces qui vont suivre, des réformes qui vont suivre, mais dans les annonces qui ont été faites la semaine dernière, donc c'était d'abord obligé, sans doute, parfois, les agresseurs de suivre des thérapies et de la mise en, l'introduction du bracelet électronique aussi pour les agresseurs dangereux, considérés comme dangereux, mais il n'y en aurait pas énormément non plus. Il y en aurait 160 pour toute l'Allemagne, si j'ai bien compris.
160 bracelets pour toute l'Allemagne.
Exactement. D'accord. En même temps, parce qu'il y a un problème de ressources, parce qu'il faut suivre les personnes et que la police n'a pas ces ressources-là. Sinon, au niveau, oui, il faut absolument lancer plus de campagnes de sensibilisation. Alors, il y en a déjà. Vous prenez le métro à Berlin, par exemple. Il y a des affiches incitant les femmes dans différentes langues, d'ailleurs, en arabe, en turc, en allemand, en français, dans toutes les langues, incitant donc les femmes à signaler, à chercher de l'aide, etc. Donc il y a déjà des campagnes qui sont effectuées, mais il faudrait aussi sensibiliser les jeunes, sensibiliser les enfants aussi, dès l'école, donc à la violence, aux différents types de violences, et surtout considérer que c'est un problème sociétal, c'est un problème systémique et pas simplement un problème individuel et privé. Donc ça, c'est important. Et inviter les gens aussi à être vigilants dans leur entourage, par exemple, parce que cette violence, elle est insidieuse, elle est souvent invisible, et donc voilà, il faut être vigilant, parce que souvent, c'est des choses qui se passent dans le voisinage, qui se passent dans la famille, et on ne le sait pas, on n'a pas forcément conscience de ça. Et on peut peut-être rajouter aussi qu'il faut changer de vocabulaire. Donc ça, c'est une des revendications des associations. Parce que les désignations sont souvent très euphémisantes. On parle par exemple en France souvent de crimes passionnels quand il est question de féminicide. Et en Allemagne, pareil, on parlera plutôt de drame familial alors qu'il s'agit d'homicide. Et donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc ça fait partie de la prévention aussi.
Et nommer aussi un viol, et vous nous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui, ça y est, la loi allemande caractérise le viol par l'absence de consentement de la victime. Il n'y a plus besoin comme de tout ce qui était requis jusqu'à présent de témoins, c'était très compliqué de faire reconnaître un viol et la législation exclut à des poursuites pénales les rapports imposés à une victime ivre, inconsciente ou en état de choc. Ça, c'était une législation qui remontait à 1998. Il n'empêche qu'aujourd'hui encore, les associations en Allemagne déplorent une définition floue et qui ne serait pas universellement applicable, qui demande à ce que l'Allemagne considère ce qui a été fait en Espagne. Cette définition, en Espagne, toute relation sexuelle sans consentement explicite est désormais un viol. Elle a éliminé la nécessité de prouver la contrainte en affirmant que seul un consentement clair et explicite pouvait être considéré comme valide. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans la loi allemande qu'il y a en Espagne et qui, d'après plusieurs organisations, constitue encore un manque, Valérie Dubslaf?
Alors effectivement, les Allemands regardent pas mal vers l'Espagne en ce moment parce que, alors je pense que c'est surtout l'encadrement, disons, les ressources mises à disposition de la police et de la justice. D'accord. Je pense qu'ils sont beaucoup plus systématiques, c'est-à-dire dès qu'il y a signalement, il y a enquête et il y a ce accompagnement des victimes et il y a aussi poursuite à l'égard des agresseurs. Et je pense que là, ils sont beaucoup plus systématiques dès le début pour endiguer tout simplement le phénomène, pour éviter que les agressions s'aggravent. Donc je pense qu'ils mettent à disposition plus de ressources, tout simplement. Ils ont plus de personnel, peut-être de meilleures formations aussi, une plus grande conscience aussi des enjeux de ces violences-là.
Tout ça est aussi le fruit d'un long combat, long travail des organisations féministes. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Elisa Gudensteinmann, du mouvement féministe en Allemagne? Quel héritage porte-t-il?
Ah, c'est une très longue tradition, le mouvement féministe en Allemagne. Comme partout, il est pluriel. Enfin, il y a différentes tendances à l'intérieur du mouvement féministe. Les féministes ne sont pas toutes d'accord sur les différentes façons de lutter contre les violences. Enfin, il y a des choses qui font consensus, mais il y a des choses où il y a débat autour, par exemple, de la justice restaurative, donc de confronter les auteurs de crimes sexuels à des victimes de crimes sexuels. Plus généralement, tout le travail. Enfin, il y a des associations féministes qui disent qu'il faut mettre tout l'argent disponible sur les victimes uniquement, et pas sur les auteurs. Et puis, d'autres qui disent qu'au contraire, ce travail de justice restaurative, donc de dialogue entre criminels sexuels et victimes, est très très important. Enfin, là, pour le coup, on voit souvent une efficacité qui est un peu plus facile à mesurer, mais il y a une peur d'un laxisme déguisé parfois, et puis on voit que ça entre en tension avec des logiques punitives. Donc, Donc oui, les mouvements féministes sont parfois divisés sur ce qu'il faut faire. Par contre, il y a consensus sur le fait qu'il faut davantage de moyens, qu'il faut davantage de places d'accueil d'urgence, former des gens. Enfin, ça, c'est quelque chose qui fait consensus sur le fait que l'Allemagne a encore vraiment un retard à rattraper en la matière.
Valérie Dubslaff, le mouvement féministe en Allemagne, est-ce que il s'est encore plus consolidé il y a maintenant 35 ans, 36, à la chute du mur, une réunification de l'Allemagne qui contribue aussi à une unification des forces.
Oui, sachant que ça n'a pas été facile parce que vous aviez deux mouvements féministes séparés avant la chute du mur. Il y en avait un en Allemagne de l'Ouest et un autre en Allemagne de l'Est. Alors celui en Allemagne de l'Est était clandestin parce qu'il n'avait pas le droit d'exister, mais il s'est développé surtout dans les années 80. Et puis c'est vrai que dans les années 90, il y a eu collaboration, on va dire, entre ces deux féminismes. Alors, ils n'étaient pas forcément d'accord non plus sur une question cruciale qui est celle du droit de l'accès à l'avortement, parce que c'était légal à l'Est, c'était illégal à l'Ouest, même si c'était dépénalisé sous certaines conditions. Et donc, il y a eu pas mal de conflits dans les années 90 entre ces deux féminismes-là. Aujourd'hui, ils travaillent main dans la main. Enfin, c'est une nouvelle génération qui est arrivée avec de nouvelles causes, avec un féminisme plus intersectionnel, comme on l'appelle aujourd'hui, enfin, qui regarde d'autres, enfin, différents types d'oppression, comme on dit, donc qui peuvent être liés au genre, à la classe, au groupe ethnique auquel on appartient. Donc on a différentes manières de vivre les oppressions quand on est une femme. Et donc aujourd'hui, oui, d'autres causes, donc c'est surtout la question de la violence, des violences sexistes, depuis MeToo surtout, donc ça s'est beaucoup développé. Il y avait une campagne allemande avant MeToo qui correspondait un peu à ce qu'on connaît en France dans Balance ton port, donc ça c'est en 2013, il y avait une campagne similaire en Allemagne qui incitait les femmes à dénoncer les violences quotidiennes, les violences ordinaires auxquelles elles étaient confrontées. Et donc ça s'est beaucoup focaliser là-dessus, donc le féminisme sur ces questions du sexisme ordinaire, tout simplement.
C'est l'intersectionnalité, on en a parlé d'ailleurs hier au Mexique, avec une nouvelle génération de féministes qui est moins à même de relever, de poursuivre l'héritage de féministes des années 80-90, comme nous disait Lorraine Descartes, des jeunes qui veulent aussi mettre l'accent, enfin autant sur les violences contre les femmes que les violences de classe et autres. Là-dessus, Elisa Goudin, peut-être que c'est aussi intéressant de dire un petit mot sur la façon dont les femmes n'avaient pas exactement le même combat féministe qu'elles aient vécu à l'Est ou à l'Ouest, dans la mesure où à l'Est les inégalités étaient quand même moindres par rapport aux hommes.
Alors, la RDA était malgré tout un État patriarcal, il ne faut pas dire le contraire. Mais par contre, c'est vrai que bon, il y avait l'accès à l'autonomie financière par le travail, le fait d'avoir un droit au travail pour toutes les femmes et donc à des gardes d'enfants. Donc, il y avait une plus grande autonomie sur le plan financier et une plus grande égalité des femmes sur le marché du travail. C'est pas exactement vrai. Il n'y a jamais eu de ministre femme à part Margot Honeck. Enfin, bon, donc, et à la tête des grandes entreprises, c'était très rarement des femmes. Mais il y avait quand même l'État a poussé des femmes vers les études supérieures, y compris des femmes de classe populaire. Et a quand même eu une politique volontariste d'intégration, d'émancipation des femmes par le travail, pour des raisons économiques, hein, pas pour des raisons féministes, mais parce que l'État avait besoin de cette main d'œuvre et donc il y avait une moins grande discrimination financière. Mais on vendait quand même du dentifrice avec des images de femmes dénudées aussi. Enfin, il faudrait pas imaginer un État parfaitement féministe, ce serait vraiment pas du tout.
Non, il s'agissait plutôt de comprendre le lien entre, enfin, comme vous l'évoquiez au tout début, puisque la question des violences économiques n'a pas été posée, de voir de quel héritage ce débat-là se fait le flambeau.
Les violences économiques sont fondamentales. Elles sont à la fois un facteur de, souvent la précarité économique, la dépendance économique face à un homme peut créer de la violence, mais elles sont aussi une conséquence. C'est-à-dire que quand on a été soumis à des violences sexuelles et sexistes, on a aussi un risque de tomber dans une précarité économique. C'est dans les deux sens. Et c'est un lien en effet très étroit. C'est pour ça que c'est dommage que le mot économique ait été rayé dans la liste des violences concernées par cette loi.
Le mot avortement aussi, me semble-t-il, ne figure pas dans cette loi. Or, on ne peut pas ne pas conclure cette émission par le rappel qu'en Allemagne, l'avortement est toujours, est-ce qu'il faut dire interdit, illégal, illicite. En tout cas, il est permis dans certains Länder, mais vraiment sous conditions, des conditions très strictes, notamment le fait que le fœtus soit issu d'un viol ou d'un inceste, ou s'il est mal formé, ou s'il y a un risque grave pour la santé de la mère, si les conditions matérielles ou psychiques de la mère ne lui permettent pas d'accoucher dans de bonnes conditions. D'ailleurs, quel motif est le plus souvent invoqué aujourd'hui, Valérie Dubslaff, pour conclure, et dans quel Länder est-ce que c'est aujourd'hui le plus prégnant?
C'est surtout pour des raisons de détresse sociale ou psychologique. Donc c'est souvent cet argument qui est avancé. Alors il est illégal mais dépénalisé dans tous les Länder, mais l'accès n'est pas le même dans tous les Länder. C'est-à-dire que les médecins peuvent ne pas procéder à un avortement s'ils le souhaitent pas. Donc ils peuvent être objecteurs de conscience. Disons que dans les grandes villes c'est plus facile d'accéder à l'IVG, ou dans les régions Berlin. Les régions de l'Est, c'est plus facile que dans les régions qui sont à dominance catholique, par exemple. Donc l'accès n'est pas le même partout, mais la loi vaut pour tous les Länder.
Que des associations féministes continuent d'ailleurs à dénoncer comme une violence également faite aux femmes, le fait d'interdire toujours l'avortement. Comment d'autres États en Europe fédéraux comme l'Allemagne se saisissent de ces questions des violences faites aux femmes? On parlera de la Suisse juste après cette rappeuse allemande Céline avec la chanteuse Paula Hartmann et cette chanson engagée contre les violences sexistes et sexuelles.
Blicke, laute Wörter. Für sie sind wir nur noch Körper. Und er hört nicht auf zu diskutieren, als ob er mein Nein nicht gehört hat. Jeder meiner Freundinnen hat das auch erlebt. Schlüssel in der Faust auf dem Nachhauseweg. Die Berührung in der S-Bahn war nicht aus Versehen. Und er sagt mir, was traust du dich so rauszugehen? Alle drei Sekunden umdrehen, nachts allein im Dunkeln. Sag mir, was weißt du davon? Kleine Tropfen in meinem Glas drin, Herz fängt an zu rasen. Sag mir, was weißt du davon? Eine Hand an meinem Arsch, aber alles nur Spaß. Mama hat uns gewarnt, das ist alles normal. Doch was weißt du davon? Ey, bitte sag, was weißt du davon? AirPods rein, aber AirPods aus. Immer Standort, Pfefferspray, Herz klopft laut. Gucke schlecht gelaunt, Kapuze in die Zopf zum Ziehen. Zeig keine Haare, nie Beine mit Stafford raus. Mädchen vermisst mit gerade 80. Ich jogg nur am Tag vorbei an einem schwarzen Roll. Koffer im Park, im Club nicht aufgepasst. Fuck, Augenkontakt. Dann eine Viertelstunde Talk, warum es mit uns nicht klappt. Knallt aus Fliesen, Nacht voll Sirenen, die Hymne von Berlin. Wach morgens auf in einem fremden Treppenhaus, nur Kraft ist einem zu erzählen, der mir da nicht glaubt. War so angezogen, dass es ihm gefällt. Gib mir nicht die Schuld, die gebe ich mir schon selbst.
La rappeuse allemande Céline et la chanteuse Paula Hartmann. Cette chanson date de 2023, Drei Sekunden, 3 secondes. C'est une chanson engagée donc contre les violences faites aux femmes. Et dans le refrain, elle demande par exemple aux hommes se retourner toutes les 3 secondes, seul dans le noir. Moi, je suis seul dans le noir la nuit. Dis-moi, qu'est-ce que tu en sais de ce que ça fait? Violences faites aux femmes, les États sommés d'agir. Aujourd'hui en Allemagne, qui votait en février une loi fédérale sur le sujet. Dans un autre État fédéral d'Europe, en Suisse, la question semble émerger tardivement à l'occasion d'une campagne de prévention.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Si je suis pas d'accord avec lui, il hausse tout de suite le ton. Du coup, je me tais. C'est pas vraiment la violence, si ?
Extrait du clip de campagne de prévention lancé il y a quelques jours contre les violences domestiques en Suisse. Le message s'adresse autant aux femmes suisses qu'aux femmes sans papier ou en demande d'asile qui risquent l'expulsion si elles se séparent de leur mari violent. Bonjour Faten Kazei.
Bonjour.
Merci beaucoup, madame, d'être avec nous. Vous êtes professeure associée de sociologie à l'université de Newcastle, spécialiste des violences de genre en Suisse. D'abord, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette volonté du gouvernement suisse de mener cette campagne au niveau fédéral? J'imagine déjà qu'elle est déclinée dans plusieurs langues.
Oui, alors cette campagne s'inscrit en fait dans une stratégie plus large qui s'appelle la stratégie Égalité 2030. Que le Conseil fédéral avait adopté en 2021. Et effectivement, elle constitue la première stratégie nationale globale d'égalité et contient notamment ce plan d'action national pour la Convention d'Istanbul, qui est censée d'aller de 2022 à 2026 avec des nouvelles mesures qui vont de la formation des professionnels à la prévention jusqu'à la lutte contre les violences sexualisées. Donc, effectivement, par son système fédéral, il existait, on va dire, les lois, le cadre législatif, mais la diversité des cantons faisait que la coordination n'était pas toujours facile. Et cette campagne, finalement, vient de cette volonté de harmoniser les pratiques.
Et oui, entre tous les cantons qui ont chacun une histoire différente dans leur approche institutionnelle de la question, le canton de Vaud, par exemple, est régulièrement mis en avant comme plus en avance que d'autres sur les questions. Comment vous avez-vous, Faten Kazei, vous avez vu évoluer la prise en charge de la question des violences faites aux femmes en Suisse et dans certains cantons qui étaient parmi les plus en retard?
Oui, en fait, peut-être ça serait intéressant, disons, de mentionner justement la question de spécialité et spécificité de la Suisse. Évidemment, effectivement, il y a le premier, on peut dire que c'est l'effet de fédéralisme. Donc, chaque canton est responsable de son dispositif, de ses moyens humains, de ses budgets. Et cela crée une géographie, en fait, inégalitaire des droits, inégale des droits. Et je vous donne juste un exemple. Par exemple, la création d'un numéro d'urgence national unique a été décidée en 2021 par le Conseil fédéral, mais c'est toujours pas opérationnel. Et c'est annoncé pour 2026 en raison justement des complexités de coordination en canton.
Il y aura un numéro, le 142, mais ça n'est toujours pas le cas pour l'instant.
Être justement lancé maintenant en même temps que la campagne, mais en fait, ça arrive bien plus tard. Mais sur la question des différents cantons, effectivement, il y a un élément historique à considérer en Suisse, que dans beaucoup de pays européens, comme la France par exemple, la lutte contre les violences faites aux femmes a été portée par les mouvements féministes plutôt, qui ont influencé par la suite la construction des politiques publiques. Alors que dans tous les cantons de Suisse, ce n'était pas le cas. Alors ironiquement, justement, dans le canton de Vaud, le premier refuge pour femmes a été créé par exemple par la décision fédérale qui a imposé au canton de préparer ça à la suite d'une recommandation justement de l'Organisation mondiale de la santé à l'époque qui avait décidé et avait déclaré les violences faites aux femmes comme un problème de santé publique. Du coup, cela, ça a conduit à une approche, on va dire, plutôt institutionnelle, parfois psychologisante, qui est moins ancrée dans la lecture féministe des violences comme rapport de domination, qui a effectivement beaucoup de conséquences jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, les violences physiques ont été longtemps considérées comme le vrai danger. La police intervient souvent tardivement, alors que nous savons aujourd'hui, voilà, ce qui consiste en fait la violence domestique, c'est plutôt le contrôle coercitif, la peur, l'isolement, la domination, que finalement cette lecture est psychologisante évacue.
Donc on ne parle plus de ces histoires sous l'angle psychologisant, on n'en parle plus non plus comme des exceptions ni comme des cas isolés. Est-ce que la question néanmoins s'est politisée en quelque sorte? Est-ce qu'elle est portée par certains partis en particulier ou au contraire en Suisse tout reste assez dépolitisé pour faire avancer la cause?
Non, effectivement, il y a, comme je vous disais, il y a des histoires différentes. Mmh. Dans certains cantons, effectivement, quand même, les mouvements féministes, ils étaient, par exemple à Genève, ils étaient très actifs. Mais peut-être quelque chose qui est important, intéressant à dire, que j'imagine dépasse le cas de la Suisse, c'est dans beaucoup de pays européens en général, ça continue à avoir une tendance à considérer ces violences faites aux femmes comme un problème culturel, seulement quand il s'agit de populations dites migrantes ou racisées, plutôt comme un problème individuel et psychologique de certains individus, justement, ou avec des problèmes de santé mentale, quand il s'agit de la population européenne. Et malheureusement, cette lecture, en fait, continue de racialiser les violences. Donc, même si on en parle plus dans le débat public, il y a toujours cette tendance à hiérarchiser, de dire que c'est quand même plus grave chez les autres communautés et que finalement, c'est comme si c'est importé, en fait, en Suisse. Mmh. Alors qu'en Suisse, on a dépassé ça. Alors qu'on sait très bien, voilà, que ça fait partie... des stratégies d'invisibilisation, le fait qu'effectivement les violences de genre sont structurelles et ancrées dans toutes les sociétés et qu'elles concernent toutes les couches de la population.
Alors justement, Fatem Kazeyi, une loi a été promulguée l'année dernière en Suisse qui donne davantage de protection aux femmes en exil, sans papier ou en situation précaire sur le territoire suisse. En quoi leur situation était-elle particulière juridiquement? Pourquoi a-t-il fallu légiférer et à quel nouveau droit a ouvert cette loi?
Oui, ça c'est justement un très bon exemple. Vous parliez de la lutte de la société civile. Ça c'était vraiment le résultat de la lutte des associations des droits des migrants, aussi les chercheurs, aussi les mouvements féministes. Parce que déjà au moment de la ratification de la Convention d'Istanbul par la Suisse, son entrée en vigueur en 2018, justement c'était tardive. Une des raisons, c'était que cette demande de protection totale pour les femmes victimes de violences conjugales de nationalité non européenne, c'était justement pas possible en Suisse parce que ça entrait en contradiction avec certaines pratiques qui, malgré ça existait une sorte de protection pour les femmes migrantes, mais en fait, ils risquaient de perdre leur permis de séjour s'ils dénonçaient ou quittaient leur conjoint parce que leur permis... qui s'appelle regroupement familial, en fait, c'était tout à fait dépendant à la vie en commune dans le même domicile avec leur mari. Et ça a fait l'objet de luttes depuis des décennies. Finalement, voilà, on a obtenu ce changement dans la loi, justement pour que ça soit aussi plus conforme à la Convention d'Istanbul, que cette dépendance administrative finalement au conjoint, qui amène aussi une dépendance économique, et que effectivement augmenter l'apport des victimes pour dépôt de plainte. Comme ça, dans la nouvelle loi, on a élargi finalement cette protection aux personnes qui sont conjoints des gens qui ont un permis valable. Mais cela reste quand même toujours insuffisant pour des personnes avec des statuts de séjour précaires, malheureusement.
La RTS, la radio-télévision suisse, a fait le portrait, par exemple, d'une femme algérienne de 35 ans installée en Suisse en 2016 avec un mari médecin de nationalité algérienne qui s'avère violent, qui l'isole socialement, d'autant qu'elle parle mal français, pas du tout allemand, sauf que son permis de séjour est lié à sa vie en commun avec son mari et en cas de séparation, elle doit obtenir une exception, comme on dit en Suisse, pour obtenir un permis de séjour qui ne dépende plus de sa vie conjugale. Les démarches sont très longues, c'est ça qui a été réformé. Aujourd'hui, cette jeune femme a pu reprendre ses études et elle est pharmacienne en Suisse. Merci beaucoup, Fatem Kazeyi, d'avoir été avec nous. Vous êtes professeure associée de sociologie à l'Université Newcastle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Elisa Goudin-Steinmann, d'avoir été avec nous pour parler de l'Allemagne, professeure en études germaniques à l'Université Sorbonne Nouvelle. Vous êtes la co-rédactrice du blog Regard sur la RDA et sur l'Allemagne de l'Est. Et nous étions en duplex, merci à vous, depuis ici Armorique à Rennes, avec Valérie Dubslaff, enseignante-chercheuse en histoire et civilisation du monde germanique à l'université Rennes 2. Et je remercie Mégane Bélanger qui était à la technique. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Eh bien, on n'a pas attendu Noël pour retrouver Catherine Dutu et la Belgique ne devra pas attendre Noël, Catherine, pour avoir un budget.
C'était la date butoir fixée par le premier ministre nationaliste Bart De Wever, rappelle la RTBF. Mais après d'âpres négociations, autour notamment de ravioles aux langoustines, note la Libre Belgique, le gouvernement fédéral a finalement trouvé un accord hier. Objectif, économiser 9 milliards d'euros d'ici 2029. Indexation des salaires, désormais plafonnée, gelée au-delà de 4 000 euros bruts par mois, tout comme certaines retraites et allocations familiales, précise le quotidien belge le soir et le site 7 sur 7, ainsi que la remise au travail de 100 000 personnes actuellement en maladie longue durée. Alors pas de hausse générale de la TVA, note le soir, le caddie des Belges est ainsi préservé, mais pas leurs loisirs, avec une hausse de la TVA pour les sports et les hôtels notamment, indique 7 sur 7. Les économies restent à charge du monde du travail, la flexibilité reste à sens unique, les contrats précaires restent la norme, déplore des syndicats tels que la Fédération Générale du Travail de Belgique, citée par le journal Le Soir. Les écologistes flamands estiment que cet accord budgétaire épargne les nantis. Ils déplorent aussi l'absence de mesures pour contrer la crise climatique, ajoute le quotidien Le Soir. Une colère qui se traduit par une grève nationale de 3 jours dans les transports depuis hier et à partir d'aujourd'hui dans les écoles, les crèches, les hôpitaux, les administrations ou à la poste, énumère la Libre Belgique. Tous ces services publics risquent de tourner au ralenti, prévient la RTBF à l'appel d'un front commun syndical, vent debout donc, contre un budget d'austérité, assorti de modifications du droit du travail, de réformes des retraites et des allocations chômage, détaille la BBC. Perturbations à attendre également dans les aéroports belges dès demain.
Et une pluie d'hommages à présent, Catherine, avec la disparition d'une légende du reggae, Jimmy Cliff.
Un talent unique, souligne le quotidien jamaïcain The Gleaner. Jimmy Cliff, maître du ska, du rocksteady, du reggae, est mort à l'âge de 81 ans d'une pneumonie. Auteur de chansons engagées notamment, sa musique a soutenu les gens dans les moments difficiles, inspiré des générations et fait rayonner avec fierté la culture jamaïcaine, a salué le premier ministre de l'île cité par The Gleaner. La famille de Bob Marley a rappelé le rôle déterminant qu'a joué Jimmy Cliff dans l'ascension de Marley, le conduisant notamment auprès du producteur Leslie Kong en 62 pour enregistrer ses premiers singles. Jimmy Cliff, né James Chambers, a largement contribué à introduire et populariser le reggae en Angleterre et aux États-Unis notamment, rappelle le Jamaica Observer et la BBC, en interprétant un anti-héros dans le film The Harder They Come en 72, l'histoire d'un musicien en herbe qui se retrouve entraîné dans un milieu corrompu et qui devient criminel. Un aperçu authentique des bidonvilles en Jamaïque, de la pauvreté dans laquelle a grandi Jimmy Cliff, précise le New York Times, à mille lieues donc de l'image touristique véhiculée par l'île, poursuit le Guardian. Harder They Come, le film et la chanson éponyme de Jimmy Cliff, qui ont aussi inspiré The Guns of Brixton des Clash, rappelle le Financial Times. Jimmy Cliff, également connu pour ses tubes incontournables tels que Many Rivers to Cross, You Can Get It If You Really Want ou encore Reggae Night, il a également conquis un public plus jeune dans les années 90 grâce à son interprétation d'Hakuna Matata dans Le Roi Lion ou bien avec sa reprise d'I Can See Clearly Now pour la comédie Rasta Rocket, ajoute le Jamaica Observer et le Guardian. Le quotidien britannique évoque aussi ses collaborations avec le chanteur brésilien Gilberto Gil ou encore avec Elvis Costello, Sting. L'essence de ma musique, c'est la lutte. Ce qui lui donne sa touche finale, c'est l'espoir, l'amour. Après tout, nous ne faisons qu'un. Peu importe notre lieu de naissance, nous sommes des êtres humains. L'un des messages que nous laisse Jimmy Cliff, la légende du reggae, est mort, je le rappelle, à l'âge de 81 ans. Alors entre deux réécoutes de ses chansons peut-être aujourd'hui, je vous rappelle l'adresse pour m'écrire fcrdpi@radiofrance.com si vous avez la moindre question sur cette chronique, sur l'actualité internationale. Un ou une spécialiste vous répondra dans la revue de presse interactive du samedi. Doesn't matter, we laugh, we chatter, don't we?
Jimmy Cliff, pour conclure Culture Monde, merci beaucoup Catherine Dutu. Dans un instant, les Midis de Culture.